Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Olivier, bonjour Vincent Trémollet-Drévillers qui est notre invité, directeur de la rédaction, de, adjoint de la direction de, du Figaro. Bonjour Justine et bonjour. Bonjour à tous. Bonjour et tous ceux qui nous écoutent.
C'est Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique, et l'émission que vous appréciez, plus 42% d'écoute depuis le début du confinement il y a un peu plus d'un mois. Mediapolis donc avec Catherine Ney, réalisée aujourd'hui par Julien Blanc, préparée par Capucine Patouillet, animée en compagnie de Justine Holman. Et avec nous en direct, mais en ligne comme nous tous, et j'espère que ma petite chaîne ne va pas trop se manifester, notre invité donc, Vincent Trémollet-Drévillers, directeur adjoint des rédactions du Figaro, comme vient de vous le dire Catherine Ney. Et pour commencer, Emmanuel Macron, enfin, Canteloup.
Allez, justement, on va faire un point sur les annonces d'Emmanuel Macron. Bonjour, Monsieur le Président.
Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous faire une confidence. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai changé.
Mais oui, c'est ce qui se dit partout, ça. Il a changé.
Oui, oui. Vous savez à quel moment je me suis dit, tiens, Emmanuel, tu as changé?
Ben non.
Ben c'est quand je me suis mis à aimer une caissière de chez Auchan. Là, je me suis dit, Emmanuel, si tu respectes une caissière, pire, si tu trouves qu'elle fait un boulot formidable, alors oui, oui, Emmanuel, tu as vraiment changé.
Attendez, oui, c'est très bien, mais c'est la phrase célèbre de Nicolas Sarkozy, j'ai changé.
Oui, mais moi, c'est autre chose. Moi, j'ai vraiment, vraiment changé. Et je le dis aux Français, vous en avez marre de ce Covid. Vous voulez que je vous en débarrasse? Eh bien, vous savez quoi? Je vais passer les malades au Karcher, moi.
Encore les Sarko, là, allons. Et vous avez souhaité également effacer la dette de l'Afrique.
Eh ben voyez que je ne pique pas tout à Sarkozy. Jamais Sarkozy aurait dit ça, franchement.
Mais attendez, mais pourquoi vous voulez effacer cette dette africaine?
Mais parce que, vous avez vu, l'économie de la France en mars, on a le PIB du Burundi. Hein, si je fais ça, c'est pour que demain, on nous efface notre dette à nous, puisqu'on sera qu'un pays africain.
C'était l'excellent Nicolas Canteloup, comme tous les matins sur Europe 1. Là, c'était mercredi matin. Donc, première question, en quelque sorte, Vincent Trémollet. Et Catherine aussi. Est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne allocution, celle de lundi?
Alors, je trouve qu'elle était trop longue, comme à chaque fois. Mais qu'en revanche, cette allocution présentait un intérêt supplémentaire aux précédentes pour la raison suivante, c'est qu'elle était précise et qu'elle nous a permis de savoir de façon très pratique deux choses. La première chose, c'est la sortie du confinement le 11 mai, la sortie progressive. Et la deuxième, c'est le retour des enfants à l'école. Et derrière ces deux décisions, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le politique reprendre la main sur le scientifique, parce que c'était deux décisions que ne soutenait pas le conseil scientifique présidé par le professeur Delfrécy. Et le président de la République a choisi de trancher autrement. Et je pense qu'il a bien fait. Il a pris un risque, parce qu'il y a un risque politique que l'administration ne suive pas, parce qu'il n'y a qu'un mois pour préparer ce déconfinement. Il a pris un risque sanitaire, parce qu'il y a toujours cette crainte de la deuxième vague, mais je pense qu'il ne pouvait pas ne pas prendre ce risque.
Catherine, vous êtes d'accord?
Oui, moi aussi je l'ai trouvé trop long, comme toujours, 28 minutes, alors qu'il aurait pu en enlever 10, mais j'ai trouvé qu'il avait peut-être trouvé son ton, le meilleur de, c'est sa troisième intervention, parce qu'il était humble, grave, dans l'empathie, il n'était pas jupitérien, il reconnaissait que, eh bien oui, il n'était pas préparé à gérer ce virus inconnu que d'ailleurs personne ne connaissait, et puis les Français qui l'écoutaient, ils étaient presque 37 millions, vous vous rendez compte, 37 millions qui attendaient quelque chose du président et qui attendaient quoi? Vous savez, c'est comme tous les enfants qui disent à leurs parents, alors c'est quand qu'on sort? Et bien voilà, il leur a donné une date, le 11 mai. Le 11 mai qui n'est pas, il n'y a pas un avant 11 mai et après 11 mai. C'est une date à partir de laquelle on va commencer à réfléchir, à tresser l'esquisse de, voilà, du déconfinement, et ça va être très difficile.
Et bien je ne suis pas d'accord avec vous deux. C'est-à-dire que je pense que je ne peux qu'être d'accord sur le fait que l'allocution était longue. Mais je trouve que c'est un peu, pardonnez-moi, hein, c'est pas vous personnellement que je vise, mais c'est un peu un cliché de dire à chaque fois qu'il est trop long. En général, je trouvais que ces allocutions objectivement longues étaient trop longues, et pour une fois, pas celle-ci. Pas celle-ci, parce qu'il y avait tellement de choses à dire et il les a dites que, en fait, je pense que les téléspectateurs et les auditeurs sont restés. Si j'avais, moi, une critique à faire sur l'émission, c'est dans le fond un deuxième point, un second point en tout cas de désaccord, c'est que je trouve que la seule chose qui fonctionnait pas parfaitement, c'était l'empathie. C'est-à-dire, bon, pour une fois, il a évité de dire une phrase malencontreuse, mais quand même, on sent que l'empathie en question que vous évoquez, Catherine Ney, et c'est peut-être vous qui avez raison, hein, elle a quand même quelque chose d'un petit peu artificiel.
J'ai ni raison, et puis vous n'avez pas tort, c'est une question de senti, de ressenti.
Oui,
sur l'empathie, voilà. Vincent. Sur l'empathie, et Catherine et Olivier, il y a le ton, alors on ne peut pas juger de la vérité d'un ton, mais il y a quand même le soin qu'il a pris de remercier les gens d'avoir accepté une privation de liberté qui, quand on la mesure, est quand même inouïe. Et il fallait qu'il le fasse. Et ça, pour le coup, il l'a bien fait. Après, sur la longueur, je trouve que les 10 dernières minutes sur le « J'ai changé » qu'imitait tout à l'heure Nicolas Canteloup étaient peut-être réductibles, mais enfin, c'est des débats de passionnés d'éloquence politique.
Alors, vous avez cité l'un et l'autre, l'une et l'autre, le 11 mai. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le 11 mai, Emmanuel Macron y est allé. Ça n'a échappé à personne, mais Capucine Patouillet, qui est encore plus rigoureuse et précise que les gens qui écoutent ça comme ça, elle en a fait un montage. Écoutez.
Lundi 11 mai. Le lundi 11 mai, le 11 mai prochain. À partir du 11 mai, le 11 mai, même après le 11 mai, d'ici le 11 mai, à partir du 11 mai, le 11 mai, avant le 11 mai, à partir du 11 mai, le plan de l'après 11 mai.
Vous vous rendez compte ? 11 fois.
Oui.
11 fois. Alors Catherine Ney, vous avez une très belle image, vous avez dit c'est comme les enfants qui disent quand est-ce qu'on peut sortir. Mais ce qui est vrai, c'est que depuis lundi, on ne parle plus que de ça. On ne parle plus que de cette date du 11 mai, soit pour l'approuver, soit pour la désapprouver, soit ni l'un ni l'autre, mais pour s'y préparer, pour voir tous les obstacles. Est-ce que, tout à l'heure, Vincent Trémollet, vous avez dit, pour une fois, le politique l'a emporté sur le scientifique. Mais je pose la question très précisément, ce que vous dites est exact, mais très précisément, est-ce qu'il a eu raison de prendre ce risque ?
Ce que l'on peut mesurer après 2 mois à écouter les chercheurs, les savants, les sachants, les conseilleurs, c'est qu'ils arrivent à une modestie toute socratique qui consiste à dire « sur ce virus, nous savons que nous ne savons pas grand-chose ». Donc ces gens-là, Emmanuel Macron les a écoutés. Il a dû les écouter, j'imagine, pendant 10 jours, jour et nuit. Il y a un moment, il faut décider. Et s'il n'avait suivi que leurs conseils, il ne pouvait rien décider, parce que rien n'était décidable. Donc, il a pris ce risque dont j'ai parlé, qu'il ne pouvait pas ne pas prendre, puisque la population française a accepté avec un extraordinaire civisme ce confinement, mais ce confinement ne peut pas durer éternellement. Donc, il s'est appuyé sur les chiffres moins mauvais en réanimation, sur la courbe qui paraissait descendante, et il a fait cette tentative qui, encore une fois, n'était pas conseillée par un certain nombre de membres du conseil scientifique qui voulaient un déconfinement le fin mai, à la fin du mois de mai, et une rentrée à l'école à partir du mois de septembre. Mais je crois vraiment que dans ce que François Sureau a appelé cruellement la république du professeur Tournesol, il n'y a pas de décision politique prenable. Donc il faut qu'à un moment, la main politique choisisse. Et c'est ce qu'a fait le président de la République.
Catherine Ney, la différence, c'est que sur les autres décisions, il pourra toujours dire, et d'ailleurs il s'en est pas privé, mais les experts étaient d'accord avec moi, y compris sur le premier tour des municipales si controversé ensuite. Là, si ça rate, il pourra pas dire les experts étaient d'accord.
Oui, mais il a pris un risque politique, il voulait le faire. D'ailleurs, vous savez, il a surpris les ministres qui ne connaissaient pas la date qu'il allait prendre. On savait que ça serait qu'il pourrait dire quelque chose pour le mois de mai, mais quand ? Alors on avait, avec certains ministres, évoqué le 1er mai, mais enfin, on n'allait pas... Le 1er mai, ça représente quelque chose pour les syndicats, donc c'était pas possible. Après, le 8 mai, il y a un pont, ça aurait voulu dire que le 8 mai, les gens auraient voulu peut-être partir. Donc le 10 mai, c'était l'anniversaire de l'élection de Mitterrand, ça aurait été un symbole pas possible. Donc le lundi 11 mai, voilà, ça a été la date qu'il a choisie, mais en chargeant Édouard Philippe, ben, de mettre en musique ce début de déconfinement. Et là, le travail est immense. Et là, on ne sait pas du tout comment on va faire pour les écoles, quelles écoles, rien n'est réglé. C'est un travail. Et donc, il a pris des risques aussi, parce que qu'est-ce qui va être possible au mois de mai, au mois de juin? Il a quand même averti les restaurateurs que avant la mi-juillet, eh bien leur restaurant ne pourrait pas réouvrir. Vous voyez.
Oui, mais donc il a mis une limite quand même. Il y a une phrase qui laisse entendre que si l'évolution de la pandémie est mauvaise, il pourrait revenir sur cette date. D'où ma question, Vincent Trémollet de Villers. Supposons que d'abord, aujourd'hui, les chiffres ne sont pas aussi bons qu'on nous le dit et qu'on nous le répète, hein, parce que on parle pas de courbe inversée, on parle de ralentissement, c'est tout. Mais vous avez encore chaque jour plus de morts par centaine.
Non, ils sont moins mauvais, mais ils sont...
Il y a plus de morts par centaine, plus d'admis en réanimation par centaine. Donc il faut pas non plus se tromper. Mais est-ce que vous croyez qu'il serait possible, juste possible, politiquement, j'allais presque dire psychiquement, psychologiquement, de revenir sur cette date en disant « Ah ben non, les chiffres sont pas bons, il faut rester confiné 15 jours de plus. »
Tout est possible.
Bah, si l'urgence sanitaire est criante, oui. Mais sinon, pour revenir à ce que vous disiez sur le désaccord avec le conseil scientifique et les experts, le problème c'est que les experts ne sont pas d'accord avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils nous disent qu'on doit poursuivre une immunité de groupe, mais qu'ils ne savent pas si ceux qui ont le virus ont une mémoire immunitaire, qu'il fallait éviter que les enfants aillent à l'école, mais qu'on ne sait pas si finalement ils propagent l'épidémie, qu'il faudrait que les plus de 65 ou 70 ans restent confinés, mais l'Académie de médecine dit que c'est inopérant et que c'est infondé. Donc devant ces contradictions que je ne critique pas, qui sont le fait de l'avance, de l'approche tâtonnante de chercheurs qui ne peuvent pas brandir de certitude, il est inévitable d'avoir à choisir. Et donc ce choix se fait en désaccord avec des experts, mais qui sont eux-mêmes en désaccord, si je puis dire, avec eux-mêmes, et qui ne présentent pas une ligne claire.
Et qui ne peuvent que l'être, parce qu'une des caractéristiques, je trouve absolument incroyable, de ce virus, c'est qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose, qu'on lève une inconnue, surgit une nouvelle inconnue. Chaque semaine, tout d'un coup, on apprend qu'au Pérou, un bébé est né avec le... Ah, on apprend que ça peut faire des lésions cérébrales. Ah, on apprend que peut-être c'est plus immunitaire que viral. C'est ça qui est terrifiant.
On apprend surtout qu'avoir des anticorps ne préserve absolument pas d'une rechute. C'est ça qui fait le plus peur.
Absolument.
Encore une fois, sur cette question de la mémoire immunitaire, on est encore sans certitude, puisque le même jour, le professeur Delfrécy donne une interview à La Repubblica dans laquelle il dit qu'elle n'existe peut-être pas, et qu'au Sénat, dans la même journée, il dit que ce qu'il faut viser, c'est l'immunité de groupe. Donc, sous-entendu, il y a une mémoire immunitaire.
Ouais. Donc si Delfrécy n'est pas d'accord avec Delfrécy, évidemment.
Voilà, ça devient un petit peu difficile.
Mais non,
de s'appuyer sur Delfrécy.
Mais non, on fait la différence entre l'individuel et le collectif. L'immunité peut être collective et peut-être pas individuelle.
Bah pour qu'elle soit collective, il faut que les individus en aient une. Sinon, il ne peut pas y en avoir.
Il est possible que tous les individus ne l'aient pas, vous savez, parce que maintenant, on parle aussi de facteurs génétiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Par rapport à ça, l'opposition, par rapport à ces décisions fondamentales, a eu des attitudes, on va dire, variées. On va écouter ça juste dans une petite minute.
Jusqu'à 11h, c'est Mediapolis sur Europe 1. Ce samedi, Olivier Duhamel et Catherine Ney reçoivent Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.
Alors, en première ligne, comme on le disait il y a une minute, en première ligne dans l'opposition, sans aucun doute, Marine Le Pen, écoutez, c'était sur France Info mardi.
Il faudrait que le président de la République se souvienne qu'il est président de la République. Moi, ça m'a assez choqué, je vous cache pas, dans le discours, hein, quand on l'analyse de près, quand on l'entend dire, j'ai constaté, comme vous, les échecs, les failles, sauf qu'il n'est pas comme nous. Il est président de la République, et donc, c'est de sa responsabilité si nous avons été confrontés à des décisions qui étaient aussi tardives et aussi défaillantes au début de la crise et qui nous entraînent aujourd'hui à être, durant deux mois, confinés.
Marine Le Pen, on peut dire que depuis le début, elle n'arrête pas de cogner. Elle passe d'un message « ils ont menti » à un message « ils ont échoué, ils ont échoué ». J'ai une question, peut-être si vous permettez, Vincent Trémollet, que je vais d'abord poser à Catherine Ney, qui est quand même très très compétente sur toute l'histoire de la Ve République. François Mitterrand avait énoncé au moins à plusieurs reprises en privé cette loi « on ne doit jamais avouer une erreur ». Et là, le président de la République vient de faire l'exact contraire. Est-ce qu'il a eu raison, Catherine Ney ?
Ben oui, mais on a changé d'époque aussi. Qu'est-ce que vous voulez maintenant, avec les réseaux sociaux, qu'il n'y avait pas de... Les Français sont plus informés qu'ils ne l'étaient du temps de François Mitterrand. Et on voit bien que peut-être qu'il y a eu du retard à l'allumage, en tous les cas, que la gestion des masques a été mal faite, quoi.
Donc les erreurs sont plus flagrantes, vous voulez dire. On les voit plus, les erreurs.
Oui, parce que, vous voyez, les Français, ils ont compris, alors que dès le premier mort chinois en janvier, qu'ils auraient besoin de masques. Ils voulaient tous en acheter au mois de janvier. C'est bien qu'ils avaient compris que, après tout, les Chinois, les Japonais, quand vous allez dans ces pays, ils ont tous des masques. Donc ça sert à quelque chose. C'est pas pour rien. C'est des pays qui sont pollués.
Et c'est vrai, mais il y avait plein de médecins. Oui, mais il y avait plein de médecins qui disaient que ça ne servait à rien.
Eh bien, mais quelquefois, les médecins sont les médecins de Molière, ils ne savent pas, ils n'ont jamais été confrontés à une pandémie comme ça. Mais les Français eux-mêmes savaient qu'il valait mieux en avoir. Donc, ça a été mal géré, ça, on peut le dire.
Vincent Trémollet-Villers, et sur le fait de ne pas respecter la loi Mitterrand, n'avouez jamais une erreur, n'avouez jamais.
Je pense que Emmanuel Macron peut avouer cette erreur, et c'est d'ailleurs sa ligne de défense, parce que cette erreur n'est pas que la sienne, c'est l'erreur de quasiment tous les chefs d'État de la planète. Donc à partir de là, il n'y a pas d'élément de comparaison, sauf peut-être si on entre de façon très fine avec l'Allemagne, avec Taïwan, avec la Corée, avec l'Autriche, avec quelques pays. Il peut avancer le fait que tous les grands chefs d'État ont été désemparés par cette crise, et que donc les erreurs qu'il a pu faire sont les erreurs humaines que toute personne aurait faites. Et du coup, la critique de Marine Le Pen apparaît comme quelqu'un qui est extérieur à l'exercice du pouvoir. Lui parle comme quelqu'un qui est face aux difficultés, face aux décisions extraordinairement difficiles à prendre, et veut montrer aux Français que devant ces décisions, il s'est trompé comme d'autres se sont trompés. Je pense que c'est les deux piliers de sa ligne de défense. Un, tout le monde s'est trompé comme nous. Deux, personne n'a affronté une crise aussi difficile que celle-là. Donc il est facile de dire ce qu'il faudrait faire quand on n'est pas celui qui décide.
Oui, c'est Roselyne Bachelot qui dit l'imprévisible est difficile à prévoir. D'un autre côté, autre critique, celle, mais sur un ton plus mesuré, celle de Jean-Luc Mélenchon, écoutez.
Il vient d'annoncer un déconfinement à la date du 11 mai. Mais un déconfinement sans planifier les conditions du déconfinement, c'est extrêmement dangereux. Ma première réaction, c'est de dire aux gens, surtout restez confinés.
Ça, c'était sur TF1 lundi 13 avril, Jean-Luc Mélenchon. Sauf qu'il s'est fait épingler ensuite, notamment en premier, je crois, par Stéphane Guillon sur Twitter, qui a relevé plus exactement, un tweet de Jean-Luc Mélenchon le 4 avril. Je cite « Le confinement sans horizon de sortie est insupportable ». Et tweet le 13 avril, Macron annonce un déconfinement quasi général au travail et à l'école pour le 11 avril. Pourquoi cette date ? Il y a comme une contradiction quand même, non, Vincent Trémollet ?
Ça, on peut le faire avec quasiment tous les membres de l'opposition et même de la majorité et de l'exécutif, ce jeu des déclarations contradictoires. Moi, je crois que pour le moment, personne n'est audible. Il y a deux acteurs politiques aujourd'hui. Il y a le président de la République et son gouvernement et la population française qui a une certaine défiance vis-à-vis de ce que fait le président de la République. Mais pour le moment, aucune personnalité politique ne cristallise et n'arrive à profiter, si je puis dire, de cette défiance. Et il y a un phénomène qui en témoigne, c'est le phénomène Raoult. Raoult est devenu une personnalité politique parce que ceux qui considéraient que le gouvernement se trompe ne trouvaient pas de représentants politiques. Donc ils trouvaient ni Marine Le Pen, ni Mélenchon, ni Christian Jacob, ni Olivier Faure. Et donc ils se sont tournés vers un médecin au look de Panoramix, pour qu'ils soient leur représentants. Donc ça montre bien que pour le moment, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de cristallisation après la crise, mais pour le moment, il y a deux acteurs politiques, le peuple français et le président de la République et son gouvernement.
Zut, j'espérais faire une émission sans que soit prononcé le mot Raoult pour arrêter un peu le cinéma autour de ça, c'est raté. Vous êtes d'accord avec Vincent Trémollet-Villers, Catherine ?
Oui, oui, en tous les cas, Marine Le Pen, bon, l'opposition s'oppose, et Dieu sait si elle s'oppose. Et Jean-Luc Mélenchon, il est quand même, il dit tout et son contraire tout le temps. Alors donc, mais est-ce que cette critique leur profite? Écoutez, pour l'instant, dans les sondages, ne le disent pas. C'est-à-dire que même ceux qui sont éventuellement d'accord avec Marine Le Pen trouvent qu'elle ne la juge toujours pas apte à gouverner. Vous voyez, donc...
Ce qui est intéressant, c'est que le débat cette semaine, et là ça va tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire tous les deux, le débat cette semaine, il s'est cristallisé sur un sujet avec deux personnalités qui ne sont pas du monde politique. Vous allez découvrir ça, allez, après une petite pause d'une minute, une minute trente.
Le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Vincent Trémollet de Villers, est votre invité ce matin, Olivier Duhamel et Catherine Ney dans Mediapolis.
Oui, je disais que le débat a eu lieu, mais entre deux personnalités qui ne sont pas du monde politique, entre le président du MEDEF, du patronat, comme on dit, et le premier secrétaire, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Alors écoutez d'abord, alors il faut savoir, pour qu'on comprenne ce débat, que en vérité, c'est Ruth Bézieux qui l'a lancé lui-même dans son interview, d'ailleurs dans votre journal Le Figaro, oui. Le 11 avril, avec ce titre qui était une phrase effectivement prononcée par Ruth Bézieux, même si après il l'a tenu, la reprise, c'est maintenant. Là-dessus, réagit Laurent Berger sur le 20h de France 2, le dimanche.
C'est totalement indécent. C'est totalement indécent. Aujourd'hui, les travailleurs, comme tout le monde, sont en train de payer le coût de cette crise. Ce n'est pas à eux de payer ensuite par des slogans qui sont lancés aujourd'hui, les vieilles lunes qui reviennent en disant « il faudra travailler plus, il faudra de la sueur et des larmes, etc. » Et donc, moi, je vous le dis, cette polémique qui a été lancée et qui a été reprise par une secrétaire d'État, elle est indigne, ce n'est pas le sujet. Le sujet, pour l'instant, c'est mais comment attendez, Laurent Berger. On peut déconfiner dans de bonnes conditions de sécurité et de santé pour les travailleurs.
Donc, c'était dimanche soir sur France 2 avec Thomas Soto. Et Geoffroy Route-Bézieux, du coup, fait marche arrière sur Europe 1 le lendemain à la mi-journée.
Entendons-nous bien. Moi, ce que j'ai dit, c'est que dans quelques mois, j'espère que la demande repartira. On peut espérer qu'après l'été, en septembre, on aura des entreprises qui auront du retard de production à rattraper. Et l'idée, c'était de travailler plus, mais pour gagner plus. C'est pas comme je l'ai lu, pour gagner moins. Après, ça ne peut se faire que dans le dialogue social avec les syndicats par entreprise. J'ai vu la réponse des syndicats, donc le débat est clos d'une certaine manière.
Le débat est clos et c'est une bonne illustration de ce que vous disiez tout à l'heure sur les politiques. Alors sur le fond, votre avis, Catherine Ney?
Écoutez, Laurent Berger, on connaît la politique de la CFDT, c'est qu'il y a quand même une préférence nationale pour, sinon, le non-travail pour moins de travail. C'était à l'origine des 35 heures, la loi sur la pénibilité qui demandait, on allait demander à des artisans, de patrons de peinture, de compter combien de fois le peintre avait levé la main pour voir exactement si on pouvait le payer plus ou moins. Enfin, ça, c'est toujours la CFDT, si vous voulez, pour Laurent Berger, il y a à la fois le travail, dire que c'est indécent, alors que franchement, je pense que les Français qui auront été confinés n'ont qu'une envie, c'est de reprendre leur travail. Il aurait pu dire c'est prématuré, c'est sûrement prématuré, mais dire c'est indécent, c'est comme pour la réforme des retraites, quand il avait dit il y a un intrus qui est entré dans la discussion, c'est l'équilibre budgétaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas que les gens travaillent et c'est quelqu'un qui ne trouve que l'équilibre budgétaire, il ne faut pas compter. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un de très dangereux. Et ce qui est surtout cette préférence nationale pour le non-travail, j'insiste, est nourrie par la désastreuse compétition entre les organisations qui réclament une sécurité absolue. Mais il n'y a pas de sécurité absolue. Parce que si on attend la sécurité absolue, c'est-à-dire que le virus soit totalement éradiqué, peut-être que le travail ne reprendra pas avant des mois, des années. Et là, il n'y aura peut-être pas de...
Il ne s'est pas prononcé contre le déconfinement et contre les faits que les gens reviennent au travail. Il s'est prononcé contre le fait qu'on remette en cause les 35 heures et qu'on travaille plus. Ce n'est pas exactement pareil.
Il s'est prononcé, en fait, ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que la maladresse, parce que c'est une maladresse de Geoffroy Route-Bézieux, a ramené un débat comme si nous étions dans la campagne présidentielle de 2017 ou au début de la réforme des retraites, avec deux arrière-plans qui seraient un des salariés qui sont des tirs au flanc et d'autres du côté MEDEF et côté CFDT, des salariés qui sont exploités, dont on ne reconnaît pas assez le travail. C'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est que la situation de crise économique dans laquelle nous sommes n'est le fait d'aucun travailleur, d'aucune entreprise, d'aucun acteur économique.
Oui.
Et que donc, on sait tous très bien qu'à la sortie, il va falloir, non pas parce que des organisations patronales ou syndicales le demandent ou le refusent, mais parce que ça sera une nécessité vitale, travailler pour essayer de reconstruire ce que ce confinement et cette nécessité sanitaire a détruite. Donc là, il y a quelque chose, j'aime pas bien quand tout le monde dit ce sera pas pareil dans le monde d'après que dans le monde d'avant, mais je trouve, et j'ai entendu ça aussi chez certains personnes des Républicains, qui reprenaient le discours en gros de la campagne de François Fillon de 2017, c'est parfaitement inadapté dans le moment. Il va falloir quand même que les organisations patronales, syndicales et politiques apprennent à retravailler un peu leur paradigme et leur doctrine politique, oui, en fonction de ce qui s'est passé.
Oui, c'est très intéressant. Alors sur le fond, tout ce que vous échangez, Catherine et Vincent Trémollet, ce que je voudrais ajouter d'un point de vue médiapolitique, c'est que tout à l'heure, Vincent Trémollet de Villers a dit dans la période actuelle, finalement, il n'y a que le président de la République et le peuple français. Moi, j'ajouterais juste une nuance, c'est qu'il y a le président de la République, le président de la République, le peuple français, et puis, de temps en temps, des segments de la société qui s'expriment, et ça a une influence. Regardez le débat qui a eu lieu, et d'ailleurs, auquel, pour une fois, j'ai participé, sortant de la stricte analyse, sur le caractère acceptable ou inacceptable de garder obligatoirement confinées les personnes de plus de 65 ans ou de plus de 70 ans. C'est parce qu'il y a eu des levées de boucliers de diverses parts, par diverses voies, dans la société civile, que le président de la République hier a annoncé qu'il ne fallait pas, et donc il n'y aura pas, une discrimination, une obligation pour les personnes de plus d'un certain âge de rester chez eux. C'est très intéressant, sur le fond.
Oui, parce que, mais cette société
civile... Je termine juste d'un mot.
Oui.
La solution, quand il y a des désaccords, se traite aussi, in fine, chez le juge. On a vu plusieurs fois que c'est le Conseil d'État, par le mécanisme dit des référés liberté, qui tranche quand il y a des accords entre les maires et le ministre de l'Intérieur, ou etc. Et là, on n'aura pas eu besoin d'un référé liberté juridique, parce qu'il y a eu d'un mécanisme d'urgence pour que le juge tranche, parce qu'il y a eu un référé liberté médiatique. Et ça, c'est quand même intéressant sur le fonctionnement des choses.
Et vous remarquerez qu'il y a eu ce sujet du confinement prolongé que le Figaro a très bien traité et avec beaucoup de force, parce qu'on s'est aperçu très vite qu'il était en train de heurter la société en profondeur.
Nous, sur LCI aussi, il n'y a pas eu que le Figaro.
N'a pas eu d'expression politique. C'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que je disais, parce que cette société civile fait partie du corps social français. Et c'est elle qui s'est exprimée, c'est des intellectuels, c'est des pétitions, c'est des écrivains, mais il n'y a pas eu, je n'ai pas entendu une voix politique forte dire « cette décision serait dangereuse ». Et donc je pense que ça confirme le fait qu'il y a une forme de désintérêt des Français pour le jeu politique dans ce qu'ils pouvaient avoir de divertissant ou de ludique. Autrefois, la situation est tellement urgente sur le plan sanitaire et économique qu'ils cherchent simplement à savoir des dates de sortie et des points de solution.
C'est d'autant plus incroyable qu'il n'y ait pas eu de réaction des politiques que si cette mesure avait été prise, on basculait inéluctablement et appliquée. On basculait inéluctablement dans une société autoritaire dans laquelle la police aurait dû en permanence contrôler les gens dans la rue sur leur âge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça aurait représenté. Donc c'est très intéressant que les politiques n'aient pas osé.
Cette décision, il faut savoir que dans les directives que le Figaro a réussi à se procurer, données par Édouard Philippe au ministre dans les préparations du déconfinement, il y en avait une donnée à Olivier Véran, qui était l'accompagnement du confinement prolongé des personnes âgées. Donc il n'y avait pas d'âge donné, mais il y avait quand même le principe, et il est heureux que le président de la République soit revenu dessus très vite.
Oui, mais là, je crois que les chaînes en continu ont beaucoup œuvré parce qu'elles ont interviewé une série de personnes, des septuagénaires nouvelles ou futures, qui disaient que pour rien au monde, elles étaient en pleine santé, que s'il y avait des confinements, elles sortiraient, elles braveraient les dangers, que c'était quelque chose absolument insupportable. Et je pense que ça a beaucoup joué pour autoriser le président à vraiment dire qu'il n'en serait pas question.
C'est pour ça que je me suis permis de dire à Vincent Trébollet qu'il n'y avait pas eu que le Figaro sur LCI, notamment.
Non, c'est certain. Et bon. Il faut ajouter pour finir que l'Académie de médecine, donc sur le plan scientifique purement, a dit que cette discrimination par l'âge était absurde sur le plan sanitaire.
Il faut dire que l'Académie de médecine n'est pas composée de personnes particulièrement jeunes. Bon,
oui, mais c'est ça, c'est juste aussi.
Alors, pendant ce temps-là, il y a une autre question, alors strictement politique, là, qui est posée sur l'après, qui est celle, allez, on va dire pour résumer, dite de l'union nationale, de la possible ou pas union nationale. On y vient dans une minute.
Mediapolis continue à distance, certes, mais avec toujours et comme chaque samedi, Olivier Duhamel et Catherine Ney, jusqu'à 11h. Ils sont en ligne avec Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.
Je vous le disais il y a une minute, est-ce que demain nous aurons une union nationale ? C'est pas exactement le mot employé par le président de la République, mais c'est l'idée. Écoutez, ça dure 17 secondes et c'était dans son allocution de lundi.
Il y a dans cette crise une chance. Nous ressouder, éprouver notre humanité, bâtir un autre projet dans la concorde. Un projet français, une raison de vivre ensemble, profonde.
Dans la concorde, c'est possible, Catherine Ney, un gouvernement d'union nationale ?
Là, il parle comme un prédicateur. Écoutez, ça veut dire quoi, l'union nationale ? Est-ce que c'est, on fait un nouveau gouvernement ? Avec un changement de Premier ministre, avec les partis chaque parti qui pourrait donner des noms pour faire un nouveau gouvernement équilibré, droite-gauche. Je pense que c'est une solution qui marcherait quoi. Et puis alors, vous voyez, si vous devez réinventer quelque chose, le président, là, il a 2 ans avant la présidentielle. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2 ans? Si vous nommez des personnalités nouvelles qui entrent dans un gouvernement, qui doivent travailler sur des dossiers, déjà il faut 1 an pour être d'accord, pour être sur des dossiers, qui va piloter ce changement ? Moi je crois qu'il faut, c'est pas que je ne plais, il y a des ministres qui sont déjà, qui connaissent les dossiers, est-ce qu'on peut les larguer sous prétexte de faire une union nationale avec des gens nouveaux, qui, voilà, droite-gauche, et je ne sais pas ce que ça veut dire.
Je ne crois pas personnellement à l'hypothèse de l'union nationale, parce que je pense que les forces politiques de l'opposition, de côté droite comme de côté gauche, le refuseront. Mais je pense néanmoins qu'il y a un paradoxe, et j'aimerais bien le soumettre à notre invité. C'est que, d'un côté, je pense que le président de la République va devoir changer de Premier ministre dans les mois qui viennent. Et que d'ailleurs, ce sera une bonne chose pour le Premier ministre lui-même. Mais je pense qu'il y a un paradoxe. C'est que, à cause de la crise économique et sociale terrifiante qui est devant nous, qui est commencée et qui va continuer sous d'autres formes, par définition, il doit gauchir sa politique. Il doit faire une politique plus à gauche, plus keynésienne, plus redistributive, plus interventionniste, etc.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire ce que je viens de dire. Ça veut dire qu'il va falloir continuer à rembourser, à faire du chômage partiel, mais ça réduit. Ça veut dire qu'il va falloir payer pour les petites entreprises. Ça veut dire qu'il va falloir augmenter la dette pour pas augmenter les impôts. C'est ça ce que ça veut dire.
Mais ça veut dire qu'on fait déjà une politique de gauche quand 57% du PIB est consacré à la redistribution sociale. Oui. Et l'argent, bon, on en donne. Combien de temps ça va durer, quoi qu'il en coûte, voilà.
Non, mais
quoi
vous qu'il pouvez en désapprouver coûte, cette politique, ça, Catherine.
Mais non, mais c'est pas. Mais non, mais je veux dire, celle mais qui vous... est en cause. On fait croire que la politique est de droite et libérale, mais pas du tout. Il n'y a que les Français qui croient que c'est une politique libérale.
C'est ce que je dis. Mais le paradoxe, donc, c'est que s'il change de Premier ministre, la logique serait de prendre un Premier ministre sur sa gauche. Mais sur sa gauche, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personnalité. Les rares personnalités politiques d'un peu d'envergure à gauche, les rares, C'est pas Martine.
Il y a Valls. Il y a Valls.
Mais Valls, excusez-moi, comme personnalité politique sur sa gauche, Valls, ça se discute largement. Et puis en plus, comme nouveauté, ça se discute aussi. Mais ni Martine Aubry, ni Bernard Cazeneuve, etc., n'accepterait, ni Anne Hidalgo. Donc c'est un paradoxe, ça. Vous êtes d'accord?
Mais vous aurez remarqué que Bruno Le Maire se fait le critique le plus actif du capitalisme financier.
Oui.
Et que peut-être il est capable, malgré sa généalogie de droite, de donner une teinte redistributive à son propos.
C'est assez amusant. Bruno Le Maire comme l'homme de gauche pour marquer la nouvelle
phrase.
Non,
je ne dis pas ça, mais peut-être a-t-il remarqué qu'il n'y avait personne à gauche. Ensuite, sur la réinvention, ce qui me paraît très difficile, c'est que pour réinventer, faire la Concorde, l'Union Nationale, le Grenelle, tout ce que vous voulez, ça voudrait dire faire entrer en masse la société civile et des gens qui n'étaient pas dans le spectre politique pour venir le renouveler. C'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron il y a 2 ans et demi. Donc ça me paraît difficile de vouloir reproduire 2 ans et demi après avoir créé la notion de nouveau monde, que la même personne installe un nouveau monde. Je comprends bien son ambition, je pense qu'elle répond à peut-être une nécessité sociale, mais je ne sais pas s'il pourra l'incarner.
Donc on est bien d'accord, il n'a pas de solution politique. Enfin, les Américains distinguent 2 mots pour politique et les Anglais qui sont très commodes. C'est policies, c'est quand le fond des politiques, ce qu'on appelle les politiques publiques, et politics, les décisions politiciennes, les décisions d'art politique, si vous préférez. Et là, il a des solutions de policies, il n'arrête pas de les mettre en œuvre, des nouvelles politiques publiques, mais il n'a pas de solution de politics. Alors, sur les policies, est-ce que l'après va être vraiment... Et là, ça va fâcher ma question, Catherine Ney, mais tant pis. Est-ce que ça peut être un Macron de gauche? Réponse dans 1 minute.
De 10h à 11h, comme chaque samedi, vous retrouvez Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Ce matin, ils reçoivent Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.
Je me suis livré un petit jeu cette semaine avec plusieurs de mes amis. Je leur ai demandé quelle est la phrase la plus à gauche dans le discours de Macron, dans l'allocution de Macron lundi, la plus à gauche, que d'ailleurs il n'ait jamais prononcée. Et cette phrase, elle n'est pas de lui, elle est celle qu'il a citée. Écoutez.
Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots, des Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, c'est la seconde phrase de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Alors, je peux vous dire que si rien ne change en profondeur dans la politique de notre pays, moi j'enverrai à Emmanuel Macron la feuille de paye d'une éducatrice spécialisée qui s'occupe d'enfants en perdition, et la feuille de paye d'un trader, et je lui dirai, mais vous avez dit que les distinctions sociales ne pouvaient être fondées que sur l'utilité commune. Vincent Trémollet de Villers, vous êtes d'accord?
Il y a une autre phrase historique, c'est les jours heureux, qui était une phrase du Conseil national de la résistance. Et ça m'amène peut-être à vous contredire, Olivier, sur l'idée de gauchissement de d'Emmanuel Macron. Parce que, est-ce que c'est bien le clivage droite-gauche qui nous permet de juger ce demi-tour? En Marche a fait demi-tour. C'est ça qui s'est passé lors de l'allocution du président de la République. Parce que c'est surtout sur des notions de souveraineté que le président de la République a fait évoluer son point de vue. Et donc, la souveraineté, ou ce qu'on a appelé le souverainisme, est partagé par des gens qui sont à droite, mais aussi par des gens qui sont à gauche. Et ça n'est pas, et c'est peut-être là-dessus que la révolution est la plus spectaculaire. Je ne sais pas si elle aura lieu dans les faits, mais dans les mots, Emmanuel Macron, sur ce sujet-là, a adopté des points de vue qu'il n'avait cessé de combattre jusqu'ici.
Catherine ?
Ben, moi, je crois que s'il annonce que tous ces gens que l'on encense aujourd'hui, les aides-soignants, les caissières, les éboueurs, sans lesquels la vie serait bien difficile aujourd'hui, les derniers de cordée, était mieux rémunéré, tout le monde est d'accord. Ça, là, bon. Mais cette ambition, d'ailleurs, qui est réclamée depuis longtemps et qui ne se fait pas, parce qu'on fait par ailleurs de la une autre redistribution, mais si les caisses étaient pleines en France, comme en Allemagne, alors qu'on est endetté jusqu'aux oreilles, ouais. Bon, moi, c'est très bien de vouloir faire un paradis social, mais pas dans un cimetière économique. Vous voyez, c'est ça qui est difficile.
La Banque Centrale Européenne, je ne dirais pas qu'elle annule notre dette, mais enfin, elle relativise incroyablement, et pas que la nôtre, les dettes des pays européens, puisqu'elle va accepter de prêter aux 10 États sur des périodes très, 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 très longues, à un taux très, 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 très bas. Donc, le poids de la dette, en chiffres, en volume, évidemment, qui augmente considérablement, mais en coût réel, du fait des décisions de la Banque Centrale Européenne, il ne va pas tellement augmenter que ça.
Puis la question est de savoir quel État, on parle de retour de l'État, mais quel État revient ? Est-ce que c'est l'État social ? Ou est-ce que c'est ce que certains appellent l'État stratège, c'est-à-dire celui qui fait en sorte que l'on puisse produire nous-mêmes nos masques, nos médicaments, nos tests, et qu'on ait une autonomie sanitaire et économique minimale.
Ça c'est peut pas être la les deux, chose. Vincent Trémollet. Ça peut
oui,
être
ça
les
peut
deux.
Être les deux.
Quand vous
mais
avez Catherine disait, Catherine disait tout à l'heure, tout le monde est d'accord pour augmenter les salaires des soignants. Vous ne pouvez pas savoir à quel point elle a raison. Le sondage Ipsos révélé hier, 95% des Français.
Oui, c'est évident. Oui.
C'est du jamais vu, un chiffre de 95% des Français. C'est jamais vu, ça. 95%.
C'est comme si on avait écarté l'hôpital des domaines régaliens de l'État.
Oui. Et nous en serions tous heureux.
Il est revenu à la faveur de cette crise.
Mais
il aurait dû y rester toujours.
Je maintiens que vous pouvez avoir, même sur cette stricte question-là, État social, si on revalorise vraiment considérablement le salaire, et État stratège, si on décide d'avoir une autonomie de fabrication des médicaments de base dont on a absolument besoin.
La question, c'est la part de l'un et de l'autre, et c'est là-dessus que le débat se fera, je pense.
Oui, mais qu'une partie du débat, c'est un des rares sujets sur lesquels il y a un quasi-consensus, quand même.
Oui, mais
pour les soignants, oui. Mais pour les aides sociales d'autre ordre, je ne sais pas. On verra. Je pense que la critique qui a été faite du recul de l'État... Et c'est vraiment concentré sur la question de l'hôpital et sur la question de notre autonomie sanitaire. C'est quand même ça que cette crise a révélé d'abord.
Oui, ça c'est clair. Bon, pendant ce temps-là, il y a eu un autre gros sujet dans l'actualité de cette semaine qui n'était pas strictement français, puisque il s'agit de la controverse à propos de la Chine. On y vient après la dernière petite pause d'une minute.
Nous sommes samedi, alors comme d'habitude, on vous retrouve, Olivier Duhamel et Catherine Ney, pour Mediapolis. Aujourd'hui, vous êtes accompagné par le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Vincent Trémollet de Villers.
Alors, vous savez, pour pouvoir préparer des émissions comme celle-ci, ou d'autres, Catherine Ney, Vincent Trémollet, moi-même, on lit beaucoup de choses, mais on a aussi beaucoup de gens qui nous alertent sur tel ou tel sujet. Et là, ce qui était intéressant, c'est que mon ami Laurent Bigland, qui dirige l'Institut Montaigne, en tout milieu de semaine, m'a alerté sur une enquête que faisait le Washington Post sur l'origine du virus, possiblement, dans un laboratoire près de Wuhan. Et puis, ça n'est venu dans le débat public que 3 jours après. Et Alice Baudry, donc, c'est la directrice du développement, enfin, du marketing et de la communication, chez l'Institut Montaigne, qui regarde pour nous les médias internationaux, m'a donc sélectionné un article du Washington Post du mardi 14 avril. En 2018, l'ambassade des États-Unis à Pékin a pris la décision inhabituelle d'envoyer à plusieurs reprises des diplomates scientifiques américains au Wuhan Institute of Virology, l'Institut de la virologie de Wuhan, le premier laboratoire chinois à atteindre le plus haut niveau de sécurité internationale en matière de recherche biologique. Cet institut a publié un communiqué de presse en anglais au sujet de la dernière de ses visites qui a eu lieu le 27 mars 2018. Mais la semaine dernière, cet institut a effacé cette déclaration de son site web bien que la mention reste archivée sur Internet. Ce que les Américains, les responsables américains, les diplomates américains ont appris au cours de leur visite, les ont tellement préoccupés qu'ils ont, à l'époque, hein, en 2018, qu'ils ont envoyé deux câbles diplomatiques pour mettre en garde contre les faiblesses de la sécurité et les failles dans la gestion des expérimentations dans ce laboratoire. Le premier câble, obtenu par le Washington Post cette semaine, dit aussi que les travaux du laboratoire sur le coronavirus de chauve-souris et leur transmission humaine potentielle représentaient un risque de nouvelle pandémie de type SRAS. Il existe des préoccupations similaires concernant un laboratoire tout près, lui aussi à Wuhan, qui fonctionne à un niveau nettement moins sûr que la norme revendiquée par le laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan, nous dit cet article. Alors, attention, rien n'indique que le virus a été conçu. Les scientifiques s'accordent largement à dire que cela vient des animaux. Mais scandale, le gouvernement chinois a bloqué totalement les informations relatives aux origines du virus. Pékin n'a pas encore fourni aux experts américains des échantillons du nouveau coronavirus collecté dans les premiers cas. Le laboratoire de Shanghai, qui a publié le nouveau génome du coronavirus le 11 janvier, a été fermé par les autorités. Plusieurs des médecins et des journalistes qui ont signalé la propagation très tôt ont disparu. Et je complète cette information par une autre des personnes qui nous aident et qui surveillent les choses et nous signalent pour qu'on n'en oublie pas, une amie Ségolène Chartier qui avait repéré un article d'un journaliste scientifique, Xavier Bazin, dès la fin janvier, sur justement les doutes sur ce laboratoire. Catherine Ney, ça met quand même sérieusement en cause les autorités chinoises.
Ben oui, mais c'est une mentir et ne pas dire la vérité, alors qu'au moment du SRAS, en 2003, il s'était engagé à... où déjà il y avait eu cette grippe parce que les Chinois mangent des civettes et des ragondins, et c'était parti d'un virus de civettes. Et d'ailleurs, il y avait 10 000 civettes qui avaient été euthanasiées, ce qui avait fait hurler Brigitte Bardot. Et alors, les Chinois avaient dit que les marchés d'animaux sauvages seraient fermés. Ils ont été fermés 8 jours et ça a repris. Bon, c'est une culture chinoise de manger des animaux sauvages. Et là, la dernière, on pensait qu'à Wuhan, c'était le marché où l'on vend des pangolins et des chauves-souris qui sont mangés par les Chinois, et d'où était partie la maladie. Donc, c'est parti, en tous les cas, ça vient de la chauve-souris. Ce que l'on ne sait pas, si ça vient du marché qui a été brûlé, comme on efface une scène de crime...
On va faire toute l'histoire, hein, parce que je suis en retard pour la chanson.
Eh bien voilà, c'est ça.
Ce que l'on comprend, sans trancher sur la dimension scientifique, c'est que les puissances internationales ont décidé de mettre en accusation la Chine. D'abord, les États-Unis en faisant fuiter dans le Washington Post un certain nombre de choses, et Emmanuel Macron en parlant de soupçons dans le Financial Times, et l'Union européenne aussi. Et enfin, si je puis dire, puisque depuis le début de cette histoire, la Chine a confirmé qu'elle avait un rapport avec la vérité pas tout à fait satisfaisant.
C'est un euphémisme, on termine sur cet euphémisme parce qu'on vous l'avait promis. On ne peut plus, Catherine. Ouais. J'ai déjà débordé beaucoup trop. Il était convenu qu'on rendait hommage au chanteur Christophe, dont on a appris hier la disparition des suites d'une maladie pulmonaire. Hommage à l'une de ses plus grandes chansons, coécrites avec Jean-Michel Jarre, et qui parle de la difficulté d'exprimer des sentiments amoureux, Les mots bleus, 1974. Tous, c'est dur de couper Christophe comme c'était dur de couper Catherine Ney tout à l'heure, d'autant que Mediapolis m'a donné l'occasion d'une rencontre, la rencontre avec Catherine Ney, que je remercierai jamais assez. Je remercie aussi bien entendu Capucine Patouillet qui a préparé cette émission, Julien Blanc qui l'a réalisé, Justine Holman qui nous a accompagnés, Vincent Trémollet de Villers. Faites-la écouter en podcast, retrouvez-nous samedi prochain, et maintenant on passe le relais à l'ami Laurent Mariotte.